Nous allons continuer aujourd'hui dans les séries de messages sur l'épître de 2 Timothée. Nous avons fini le chapitre 1 et nous allons aborder aujourd'hui, commencer le chapitre 2 du verset 1 à 7. Et je vous invite à ce sujet d'ouvrir votre Bible dans 2 Timothée, chapitre 1, chapitre 2, verset 1 à 7. Aujourd'hui, nous n'allons pas parcourir tous les versets, mais je veux juste m'arrêter au verset 1, aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Mais lisons ce passage. « Toi donc, j'ai souligné « toi donc », c'est très important. « Mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. » Chers frères et sœurs, laissez-moi vous demander, quel est votre plan pour les prochaines 5-10 années à venir? Ou même, pour ne pas être si ambitieux d'aller jusque-là, quels sont vos plans pour l'année prochaine? Concernant votre vie de relation avec Dieu, c'est dont je veux vous parler. Quel est votre plan? Quel est votre projet? Quels sont les défis que vous voudrez lever pour entretenir de votre relation avec Dieu, pour atteindre votre croissance spirituelle en Jésus-Christ? Vous savez pourquoi on se pose de telles questions? Parce que, n'oubliez jamais, lorsque Dieu vous regarde, il ne s'attarde pas sur ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Il voit déjà ce que vous pouvez devenir d'ici quelques années, d'ici quelques mois, si seulement vous êtes totalement prêt à faire sa volonté, être dévoué à faire ce qu'il vous demande, coûte que coûte. Sans exagérer, je peux dire, Jésus était un visionnaire. Au moment où il parlait à Pierre, un simple pêcheur de poissons, il voyait en ce moment-là déjà en Pierre celui qui deviendrait l'apôtre qui tiendrait entre ses mains les clés du royaume de Dieu. Lorsque Jésus a saisi Saul sur le chemin de Damas, un des plus grands persécuteurs et blasphémateurs de l'Église, il voyait déjà en ce moment-là celui qui deviendrait le plus grand missionnaire chrétien de toute l'histoire. Lorsque l'Éternel a vu David dans les champs, un simple berger, Dieu voyait déjà qu'il deviendra le plus grand roi qu'Israël ait jamais connu. Lorsque Rahab, une prostituée païenne, a sauvé les 2 espions, Dieu voyait déjà qu'elle fera partie d'une des ancêtres du Sauveur du monde. Et ça continue, la liste est longue. Dieu a de grands rêves lorsqu'il regarde aujourd'hui les chrétiens du 21e siècle, tels que vous et moi et bien d'autres dans ce monde. Et alors, permettez-moi de vous lancer le défi aujourd'hui pour devenir en tant que croyant celui ou celle que Dieu veut que vous soyez. Ainsi, soyez déterminés à devenir ce que Dieu veut que vous soyez, même dans un monde hostile à la foi chrétienne. L'épître dans lequel nous parcourons, rappelez-vous, a été écrit à Timothée, qui a été appelé à être pasteur dans l'église à Éphèse. Il avait une tâche, un défi énorme. Dans une église où il y a les faux docteurs, qu'il faut fermer la bouche. Dans une église où tout n'allait pas. Dans sa personne lui-même, à Timothée, qu'on méprisait de sa jeunesse. Le défi est tellement si grand, mais Dieu l'a appelé à cette tâche. Oui, nous sommes aussi dans un monde, je ne parle pas de l'église de Pessac, mais dans le monde autour de nous qui est hostile à la foi chrétienne. Un défi à relever de vouloir continuer à marcher fidèlement et grandir dans la voie de la maturité chrétienne. Rappelez-vous qu'être chrétien n'est pas chose facile, hein, parce qu'une fois sauvé, nous nageons en contre-courant du monde qui nous entoure. Et dans le passage que nous venons de lire ce matin, le Saint-Esprit nous donne des buts à atteindre en tant que chrétiens. Des exemples à suivre, des modèles à imiter. Et si nous le mettons en pratique, nous deviendrons un chrétien fort et solide. C'est ce que Dieu veut que nous devenions. C'est le projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Et c'est ainsi que nous serons capables de marcher selon le Seigneur et briller comme un flambeau du ciel au milieu du monde qui s'enfonce de plus en plus dans les ténèbres. Alors, quel est le premier conseil de Paul à Timothée par rapport à la tâche auquel il est appelé dans cette église à Éphèse? Mais l'application et aussi pour nous aujourd'hui, quel est le premier conseil, le défi à relever? C'est de devenir ce que Dieu veut que nous soyons, même dans un contexte non favorable, comme celui qu'a été dans la vie de Timothée dans son ministère. Donc le premier conseil que je vois ici, c'est de vivre au quotidien notre identité d'enfant de Dieu. Je répète, le premier conseil que Paul adresse à Timothée ici, c'est de vivre au quotidien notre identité d'enfant de Dieu. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La conjonction de coordination, donc, est très importante. Parce qu'il prend en compte tout ce que nous avons parcouru dans le chapitre 1. Le donc prend en compte ce qui est dit dans le chapitre 1 et entraîne l'exhortation qui suit dans le chapitre 2 que Paul adresse à Timothée. Je veux juste citer à titre d'exemple ce que nous avons vu qui est important dans le chapitre 1. D'abord, il a été mentionné la foi authentique de Timothée. Ouvrez votre Bible, 2 Timothée chapitre 1, verset 5. Paul, s'adressant à Timothée, dit « En gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. » La foi authentique de Timothée placée en Jésus-Christ. Dans le chapitre 1, il a été question aussi le don de Dieu accordé à Timothée pour l'équiper dans son service pour le Seigneur. Déjà dans 1 Timothée chapitre 4 verset 14, Paul l'avait déjà écrit, « Ne néglige pas le don qui est en toi. » Et dans le chapitre 1 de 2 Timothée verset 6, il ajoute, « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Donc nous avons vu, premièrement, dans le chapitre 1, donc la foi authentique de Timothée. Le don de Dieu pour l'appel à ce ministère qui lui a été adressé par le Seigneur. Donc Timothée n'avait pas besoin de nouveaux ingrédients spirituels, si je peux dire, pour sa vie. Tout ce qu'il devait faire était de stimuler ce qu'il avait déjà reçu. Ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Il n'avait pas besoin d'un nouveau ingrédient spirituel, hein, mais il l'a déjà reçu, mais de le stimuler ce qu'il a reçu du Seigneur. Et à la lumière de tout ça, Timothée a une grande responsabilité. Quelle est sa grande responsabilité? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Sois fort. Littéralement, sois fort. D'un côté, c'est le Saint-Esprit qui nous équipe pour nous remplir de force. Nous l'avons vu. Et je veux le réciter aussi dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. D'un côté, le Saint-Esprit nous équipe pour nous remplir de force. Et quand il parle de force, dans l'original, le grec, c'est dynamis. De là vient le mot français dynamite. Imaginez la capacité de ce que Dieu met à notre disposition dans notre vie pour le servir. Car l'esprit que Dieu nous a donné ne nous rend pas timides, au contraire, son esprit nous remplit de force, de dynamus, dynamite, hein, d'amour et de sagesse. Donc quand il adresse l'exhortation, fortifie-toi, sois fort, d'un côté l'esprit nous équipe pour nous remplir de force, mais de l'autre côté, Dieu nous demande d'être fort. L'un ne va pas sans l'autre. Toi donc, de Timothée 2:1, l'autre verset, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Sois fort. C'est important, regardons encore hein, l'original, le grec, hein, qui est traduit ici. Le temps du verbe est à l'impératif et au temps présent. Ce qui signifie dans le grec, c'est une action continuelle. Ça ne s'arrête pas, donc la constance. Littéralement, on peut dire, continue-toi de te fortifier. Et toujours, et toujours, et toujours, et toujours. Littéralement, c'est ça ce que ça veut dire. Parce que Dieu ne nous rend pas fort instantanément, une fois pour toutes. Non. Non. C'est continuel. D'où la constance. Et ce verset nous dit, mais comment continuellement être fort? La réponse est là. Dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ça veut dire que la force n'a qu'une source, la grâce en Christ. Quand on parle de grâce charis, hein, ce n'est pas une entité, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, mais la grâce se manifeste aussi dans des traits de caractère que Dieu veut nous voir. La constance, la consolation, la persévérance. Et donc, la force n'a qu'une seule source, la grâce en Christ. Ce qui signifie que toute capacité, tout accomplissement qui font appel à notre propre ressource sera voué à l'échec. Immédiatement. Et quand on lit les passages, il faut être attentif. Nous avons fait attention le « donc », mais nous faisons attention le « dans », dans la grâce. « Dans » indique la sphère de notre force. La sphère de notre force. Il n'y a donc qu'un seul moyen d'être spirituellement fort, c'est dans la grâce, et cette grâce ne se trouve qu'en Christ. Je ne veux pas être pessimiste, mais malheureusement, et c'est la réalité, quand je regarde ma vie, quand vous regardez le vôtre, le constat est souvent triste. Combien de croyants connaissent Christ personnellement comme Seigneur et Sauveur depuis des décennies et sont toujours écrasés par le poids de leurs péchés? Or, en Jésus, nous sommes rachetés, nous sommes pardonnés de nos péchés. Colossiens 3, 14. Et le constat est triste. Pourquoi? Parce que nous répétons dans notre propre vie, je dirais, l'ironie de l'histoire du peuple d'Israël. Qu'est-ce que je veux entendre par là? C'est que vous le savez, que le peuple d'Israël a été libéré par Dieu de l'esclavage en Égypte, pour se retrouver dans un pays de liberté, dans le pays de Canaan. Et pourtant, étant retrouvé en Canaan, de nouveau, il tombe dans une pire des esclavages qu'auparavant. Rappelez-vous, Dieu a utilisé Moïse pour délivrer Israël de l'esclavage en Égypte, comme je viens de le dire, les a conduits pendant 40 ans dans le désert, puis Josué, son assistant, les a amenés dans la terre promise comme accomplissement des promesses que Dieu a données à Abraham et ses descendants. Donc le peuple a été libéré d'une oppression de 400 ans environ en Égypte et se retrouve maintenant dans le pays de la promesse. Et pourtant, le peuple censé vivre dans la liberté dans le pays de Canaan se retrouve à nouveau dans une oppression pendant 18 ans. Où les Moabites, avec leur roi et grand, dominent sur Israël. Regardez Juges, chapitre 3, verset 14. Et les enfants d'Israël ont été assujettis 18 ans à Eglon, roi de Moab. C'est triste. Dieu vous a destiné à la liberté et, triste, nous reproduisons exactement la même histoire que faisait le peuple d'Israël. Libéré de l'esclavage pour vivre la liberté en Dieu, avec Dieu, et pourtant on retombe à nouveau dans l'esclavage. C'est ce qui est arrivé au peuple et ce qui nous arrive aussi aujourd'hui. Vous savez, vous pouvez venir tous les dimanches à l'église. Vous pouvez assister à toutes les réunions. Mais intérieurement, on peut vivre dans la défaite intérieure. Comme ce peuple d'Israël, on peut vivre dans l'oppression, souvent pire que celle que l'on a connue alors qu'on n'était même pas chrétien. À cause de nos compromis avec le péché, à cause de notre incrédulité. Je dirais, il n'y a rien de pire que d'être convaincu de la vérité de l'Évangile et de ne pas voir cette vérité incarnée dans certaines réalités de notre vie. Et ça, c'est le problème. Pour vous, pour moi aujourd'hui. Dieu nous a libérés pour vivre sous une perspective plus élevée, le projet de Dieu pour nous. De vivre pour la gloire de Dieu, et de vivre de victoire en victoire. Mais malheureusement, on vit dans la défaite. Chaque jour. Ce n'est pas ce que Dieu décide pour nous. Oui, Romains 6, verset 16, regardez avec moi, Romains 6, verset 16 à 19. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Ayant été affranchis, voilà, du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. C'est le projet de Dieu pour nous. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ça se dépasse. Maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Ça, c'est le projet de Dieu pour nous. Il nous a délivrés de l'esclavage du péché, pour vivre maintenant dans quelque chose de plus glorieux, vivre selon la justice. La justice, c'est la norme à laquelle Dieu nous appelle, de vivre selon ses commandements, selon sa parole. De même, Dieu veut nous voir grandir spirituellement, et la parole de Dieu est claire là-dessus. Regardez 2 Pierre 3, verset 18. « Mais croissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Et Paul prier pour les chrétiens à Colosse, la même chose, de les voir grandir dans le Seigneur. Dans cette prière, est-ce que Paul voyait dans l'église que les gens ne veulent pas grandir, veulent rester au statu quo là où ils étaient et se contentent de leur état spirituel? Et Paul a prié ceci dans Colossiens 1, versets 9 et 11. Parce que Dieu veut nous voir grandir spirituellement. Et cette prière est là pour nous exhorter. Paul dit, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Verset 11. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Voilà le projet de Dieu, le défi que Dieu veut relever pour chacun de nous de voir grandir spirituellement. Et malheureusement, le constat est encore triste. Si Dieu veut nous voir grandir, souvent on préfère nous contenter de l'état spirituel où l'on se trouve. Clairement, ne pas vouloir grandir, en méprisant ainsi la grâce de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous exhorte à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Jésus est allé jusqu'au bout sur la croix pour porter le péché en son corps et pour subir les peines que nous méritons à cause de notre péché et pour nous délivrer de l'esclavage du péché. Quand nous plaçons notre confiance en Jésus, nous sommes libérés. Vivre dans la liberté en Christ. Et malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Quand je me regarde moi-même, quand la parole de Dieu, Dieu nous destine à être plus que vainqueurs en toutes choses. Et souvent, nous sommes dans la défaite spirituelle. Chers frères et sœurs en Christ, nous vivons dans un monde plongé dans les ténèbres spirituelles et morales qui rejettent le Fils de Dieu. Et qui nous persécutera, nous rejettera. Jésus a prévenu. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais je dirais, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons quelque chose que le monde n'a pas. Le monde n'a pas. Dieu nous donne dans sa grâce la capacité de nous rendre fort, parce qu'il nous a équipés de son Saint-Esprit qui nous rend fort déjà. Oui, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la force spirituelle par ce que fait le Saint-Esprit en nous. Et cela vient de la grâce qui est en Jésus-Christ, comme nous dit la parole de Dieu. La question est celle-ci. Le croyons-nous vraiment? Combien je réalise dans ma propre vie. Merci, mon Père, que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité, de cette nature qui est rebelle à la loi de Dieu, qui ne veut pas se soumettre. Je parle en tant que chrétien. Et cette nature rebelle à la loi de Dieu me pousse à se dire, mais est-ce que c'est vrai? Ça a un impact ou pas? Je le crois ou pas? Vous voyez? Croyons-nous vraiment que Dieu veut que vous soyez fort continuellement et vous en êtes capable? Nous approprions-nous ce que Dieu nous a déjà donné? Nous reposons-nous sur les promesses de Dieu? Ce matin, l'appel de Dieu pour chacun d'entre nous est celui-ci. Fortifie-toi, sois fort, spirituellement. Laissez-moi donc vous lancer le défi aujourd'hui de devenir ce que Dieu veut que vous deveniez, être continuellement fort. Donc, ne vous contentez pas du statu quo, mais visez à devenir le meilleur pour Dieu, ce que Dieu veut que vous soyez. Visez à devenir le meilleur pour Dieu, ce que Dieu veut que vous soyez. Pourquoi? Vous savez, parce que dans la vie chrétienne, quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quand Dieu nous exhorte à faire quelque chose, ce n'est pas pour devenir quelqu'un. Écoutez bien. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, ce n'est pas que nous devenions quelqu'un. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, c'est pour que nous devenions ce que nous sommes déjà en Christ. Vous voyez? Quand Dieu nous demande quelque chose à faire, c'est parce que nous le sommes déjà, et non pas pour devenir quelqu'un. C'est un principe biblique. Je veux juste, pour terminer, vous montrer que c'est un principe biblique. Vous le voyez partout. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 2, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints. Qui ont été sanctifiés, ils sont des saints, mais ils sont appelés à être saints. Si on peut dire, ils sont sanctifiés dans leur position, comment Dieu les voit, mais de cette position, Dieu veut que ça se traduise dans leur conduite de chaque jour, appelés à être saints. Vous voyez, ils sont déjà saints, mais ils sont appelés au quotidien d'être saints dans leur conduite. Donc, Paul exhorte à vivre en conformité de ceux qui sont déjà devenus en Jésus-Christ des sanctifiés. Sanctifiés ou saints, c'est mis à part, consacré à Dieu. Vous voyez, c'est pas pour devenir quelqu'un qu'il n'était jamais, si il l'est déjà. Mais au quotidien, ça doit se traduire dans notre vie, dans nos actes, dans nos paroles, dans ce que nous faisons, ce que nous disons. Deuxième exemple pour illustrer que Dieu, quand il nous demande de faire quelque chose, c'est pour être ce que je suis déjà en Jésus-Christ. Éphésiens 4, 32, pardonnez-vous mutuellement comme Dieu vous a pardonné en Christ, dans le domaine du pardon ici aussi. Paul les exhorte à vivre en conformité de ce qu'ils sont déjà, à savoir des pardonnés en Jésus-Christ. Vous savez, combien on peut être des chrétiens malheureux toute sa vie, tout simplement par le refus de pardonner. Par le refus de pardonner. On envenime son cœur. L'amertume, la colère qui est là. Or, le pardon est une puissance qui libère. Ça, on perd de vue de cette réalité que Dieu veut pour nous. Il veut notre bonheur. Mais, voilà, vous êtes pardonné, pardonnez aussi. C'est aussi simple que ça. C'est ce que vous êtes, traduisez dans votre quotidien ce que vous êtes déjà. Regardez, marchez dans la lumière parce que vous êtes lumière dans le Seigneur, Éphésiens 5, 8. Ici aussi, Paul exhorte les chrétiens à devenir ce qu'ils sont déjà. Ils sont des lumières dans le Seigneur. C'est déjà ce qu'ils sont. Et maintenant, brillez. C'est tout ce que la parole de Dieu dit. Brillez comme un flambeau. Vous êtes déjà lumière dans le Seigneur. Ce que je suis se traduit dans ce que je fais autour de moi. Pour terminer, l'illustration, Colossiens 2, verset 12 et Colossiens 3, verset 1. Vous êtes aussi ressuscité en lui, avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous voyez encore? Paul exhorte à vivre en conformité de ce qu'ils sont, à savoir des ressuscités avec Jésus-Christ. C'est le cas de nous tous. Nous sommes déjà des personnes ressuscitées spirituellement, et bien maintenant vivons comme des ressuscités. Vous voyez, c'est ça ce que Paul dit. Et malheureusement, on perd de vue ces réalités et on devient malheureux. On n'a pas de perspective sur notre vie spirituelle et ce n'est pas ce que Dieu veut. Fortifie-toi, sois fort dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Oui, le Saint-Esprit nous équipe déjà pour nous remplir de force, pour surmonter les défis, les obstacles, les épreuves permises par Dieu même dans notre vie. Mais à chacun de nous maintenant de prendre la décision de nous fortifier dans la grâce en Jésus-Christ pour relever le défi de devenir ce que Dieu veut que nous devenions. Qu'est-ce que Dieu veut que nous devenions? Dans le premier conseil ici, c'est d'être continuellement fort pour la gloire de Dieu et pour notre bien. Amen.